Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Il est 20h sur Transistor et vous nous écoutez soit en direct depuis transistor.fr ou bien directement de visu depuis la salle 1 place de l'école occupée à l'ENS de Lyon, d'où nous émettons en direct ce soir pour une édition un petit peu spéciale. Nous sommes donc le jeudi 10 mai et c'est parti, toute l'équipe est avec nous pour vous récolter l'information du moment et la retransmettre mixée, égalisée, montée et bien sûr amplifiée. Décidément, je fourche à chaque fois là-dessus. Alors, la grille du coup est un petit peu bousculée en conséquence puisque suite au journal, nous retrouverons quelques-unes des occupants pour une petite interview et après le décortiquage de François René, nous retrouverons à l'ADMI, la revue de presse, l'édito Echo. Nous terminerons bien sûr avec un journal de la culture et puis en point d'orgue à la fin, on parlera un petit peu de sport avec quelques victoires à célébrer, je crois, François René. Mais tout de suite, on ne tarde pas et on vous retrouve donc, François René et Maë. Bonsoir à tous les deux et c'est parti pour votre
bonsoir,
journal.
René. Bonsoir. Au national d'abord. Alors que s'achève aujourd'hui le 19e jour de grève à la SNCF, l'intersyndicale a décidé de faire voter les cheminots pour leur demander s'ils sont pour ou contre la réforme ferroviaire.
Une consultation aura lieu du 14 au 21 mai.
Les différents syndicats établiront ensemble une liste d'urnes fixes, accessibles lors des AG, mais aussi des urnes mobiles afin d'aller à la rencontre des non-grévistes. En effet, les syndicats ont fait entendre leur volonté de maximiser le nombre de votants sans effrayer les non-grévistes ou peu militants, en leur garantissant notamment un complet anonymat. Cependant, du côté de la direction et du côté du gouvernement, on ne cautionne pas cette initiative, considérant que la réforme ferroviaire n'est pas une question interne à la SNCF, mais qui concerne tous les Français et qui doit par là même passer par leurs représentants et par les parlements. Reste à savoir si les 10 Français seront réellement entendus ou alors sauront se faire entendre. Hier, l'université du Mirail, occupée depuis la mi-décembre et lieu symbolique de la mobilisation étudiante, a été évacuée par les CRS sur décision d'un juge administratif. Mise sous tutelle d'un administrateur provisoire, Richard Lagagné, depuis le 21 mars, l'occupation de l'université avait réussi à mobiliser massivement des étudiants et son évacuation s'inscrit dans la continuité des interventions policières de ces dernières semaines dans les différentes facs françaises.
Les étudiants mobilisés ont tenté de contrer l'intervention des forces de l'ordre en se réunissant d'urgence et en créant des chaînes humaines.
A priori, pas de blessés à déplorer, mais une violence diffuse et l'arrestation d'un étudiant. 180 policiers pour 60 étudiants, le ratio était encore très équilibré, comme vous le constatez. L'administrateur Lagagné a quant à lui déploré les dégradations constatées et pour lesquelles a été déposée une plainte. Il a également fait part de sa volonté de maintenir les examens qui devraient commencer le 11 juin au Mirail ou bien délocalisés. Le projet de réforme des institutions présenté par Macron en juillet 2017 a été lancé mercredi avec la présentation du volet constitutionnel en Conseil des ministres.
Le gouvernement a confirmé plusieurs mesures comme la suppression de la Cour de justice de la République, la disparition du statut de membre de droit du Conseil constitutionnel pour les ex-chefs de l'État, ou la nomination des magistrats par le Conseil supérieur de la magistrature.
Ces dispositions restent cependant largement critiquées à gauche comme à droite, où on estime que l'exécutif tente d'instaurer une limitation du droit d'amendement, de réduire les navettes parlementaires au profit de l'Assemblée, ou de donner la priorité à certains textes gouvernementaux dans l'ordre du jour. Un bras de fer s'est engagé entre le Sénat et le gouvernement, ce dernier tentant de faire passer en force ces réformes.
International maintenant, c'était une promesse de campagne et c'est donc sans réelle surprise que Donald Trump a annoncé mardi le retrait de son pays de l'accord sur le nucléaire européen signé en juillet 2015. Cette décision a été saluée par les adversaires de Téhéran au Moyen-Orient, Israël, l'Arabie Saoudite et les Émirats.
Les signataires, eux, soupirent car l'accord paraphé à Vienne entre l'Iran et les 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU, plus l'Allemagne, avait demandé pas moins de 12 ans de négociations.
Rappelons que cet accord visait à lever progressivement les sanctions qui pesaient depuis des années sur l'Iran, celles instaurées par les États-Unis dès 1979 ou celles imposées par les Nations Unies entre 2006 et 2010 ou par l'Union Européenne en 2007, alors que l'Iran était sous la présidence de Mahmoud Ahmadinejad, désireux de reprendre le programme d'enrichissement d'uranium iranien. En échange d'une levée de ces sanctions, Téhéran s'engageait à ne pas chercher à se doter de l'arme atomique. Enfin, l'accord prévoit également des visites régulières sur tous les sites nucléaires iraniens par les inspecteurs de l'Agence internationale pour l'énergie atomique. Aujourd'hui, je cite, nous avons la preuve définitive, je cite Donald Trump, la preuve définitive que la promesse iranienne était un mensonge. En réalité, la preuve en question est un plan d'enrichissement de l'uranium datant de 2011, soit avant la signature de l'accord. Toutes les inspections de l'Agence internationale pour l'énergie atomique depuis 2015 ont à contrario montré que l'Iran s'était strictement conformé aux exigences de l'accord. La question qui se pose maintenant est, l'accord peut-il survivre au retrait américain? Théoriquement oui, tant que l'Iran ne se retire pas. Mais il faudrait pour cela qu'il y trouve un bénéfice économique, ce qui dépendra en fait de la dureté des sanctions américaines. On peut être sceptique, d'autant que ce nouvel état des choses fait le jeu des ultra-conservateurs au détriment du président Hassan Rouhani.
Iran, toujours, les tensions augmentent entre le régime chiite et Israël.
Oui, hier, pour la première fois, des roquettes attribuées à l'Iran ont été tirées vers Israël, qui a riposté. Elles ont visé sans succès les premières positions de l'armée israélienne sur le plateau du Golan, annexé en 81 par l'État hébreu. Aucune victime n'a été enregistrée. Le système de défense antiaérien Dôme de Fer a intercepté plusieurs roquettes parmi les 20 qui ont été tirées, dont aucune n'aurait atteint le territoire contrôlé par Israël. Vers 2h du matin, les habitants ont été autorisés à sortir des abris, les écoles devant rouvrir normalement dans la matinée. Israël a répondu immédiatement et avec une ampleur inédite à cette salve qui était attendue depuis déjà plusieurs années. L'Observatoire syrien des droits de l'homme fait état d'au moins 23 morts dans les bombardements israéliens, dont 5 soldats syriens et 18 membres de forces alliées à Bachar el-Assad, dont l'Iran fait partie. Ce matin, le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, s'est réjoui que l'armée ait frappé la plupart des infrastructures iraniennes en Syrie. Emmanuel Macron et plusieurs chefs d'État européens ont quant à eux appelé à la désescalade. Brésil pour finir, Joaquim Barbosa, l'ancien président de la Cour suprême brésilienne, renonce officiellement à se présenter aux élections présidentielles. Barbosa, 63 ans, pardon, socialiste très populaire et coqueluche des sondages de ces dernières semaines, était perçu comme l'homme providentiel dans un monde politique gangrené par la corruption. Il ne sera pourtant pas l'homme providentiel que le pays attend. L'ex-magistrat a renoncé mardi 8 mai à se présenter. Sur Twitter, le père de famille explique son choix par des raisons strictement personnelles.
Selon ses proches, il aurait été échaudé par le climat politique tumultueux qui règne actuellement au Brésil.
Il était crédité de 8 à 16% d'intention de vote au premier tour. Une popularité déconcertante pour un homme sans programme qui n'a jamais fait part de son souhait d'être président. Un témoin du désarroi des électeurs brésiliens avide de nouveautés. 4 ans après le déclenchement de l'opération anticorruption Lava Jato et la mise au jour d'un gigantesque système de pots de vin orchestré entre les groupes publics, les sociétés privées et les partis politiques, les Brésiliens ont perdu foi en leurs élites. Barbosa, fils de maçon, noir, francophile diplômé d'Assas, qui avait gravi un à un les échelons de la magistrature, faisait pourtant exception. Les analystes craignent désormais que les candidats modérés soient concurrencés par le candidat de l'extrême droite, Bolsonaro, un grand nostalgique de la dictature militaire.
Et on passe maintenant au sujet long.
Tous les sujets seront abordés, il sera... Allez, l'heure qu'on entend les occupants et les occupantes de la salle 1 place de l'école à l'ENS de Lyon. On revient justement sur cette petite occupation, Maëlle.
Exactement, vous l'aurez compris, aujourd'hui on est en direct de la salle occupée de l'ENS sur le site Mono. On va donc revenir pour vous sur les événements de ces derniers jours.
Jeudi 3 mai.
C'était il y a une semaine, jour pour jour, quasiment heure pour heure, l'AG de Lyon 2 échoue pour cause de CRS. Au même moment, quelques rues plus au sud, l'AG festive prévue à l'IEP ne peut avoir lieu pour des raisons similaires. Il est environ 21h, les étudiants mobilisés rongent leurs freins. C'est alors qu'un coup de fil est passé.
Eh bien, venez à l'ENS.
La machine est lancée.
22h.
L'AD 2020 est remplie par une bande d'individus joyeuses et motivés. La sécu, à l'abri dans son QG, n'a pas encore compris que...
L'ENS est occupé.
Libérer les mouflons, peigner des banderoles, la mobilisation s'étend, les facs sont des terriers communicants.
Vendredi 4 mai, 1h du matin.
AG en D2020, on débat, on s'emballe, on projette.
4h.
Une vingtaine d'individus ronflent dans la salle.
6h.
Les personnels arrivent à l'ENS et découvrent l'occupation.
Vous êtes bien réveillé, monsieur ? Vous avez bien dormi ? C'est bon, je vous entends mal à l'aise.
Allez, on vous laisse.
Écoutez, bon courage.
Bon courage.
Par contre, nous, on nettoie les toilettes.
Je pense qu'on est tous d'accord pour que cette salle et les toilettes en face, ça, c'est bloqué.
Tous les toilettes. Les toilettes sont bloquées.
On s'en occupe. Ouais.
Pour les toilettes, il a bon les toilettes utilisées en face et cette salle.
Ah, merci.
Voilà, parce qu'une année, ça a arrivé la grève. C'était tout au fond, dans une classe aussi. Ils ont squatté tous. Je crois qu'ils sont restés, oh là là, un moment. Et c'est la police qui est venue hein, déloger. Hein. C'est la police, mais ils sont restés, je crois, plus d'une semaine, je crois, 15 jours.
N'hésitez pas à vous réveiller si vous voulez plus tard.
Quand on se passe.
Non, mais ça y est, c'était pour vous réveiller, les enfants. Hein. Moi, je suis une maman. Hein. Les enfants, je les réveille comme ça. T'as pas rangé ta tasse dans la vaisselle. Hein.
7h.
Branle-bas de combat, passage de serpillière et délocalisation de l'occupation sur le site Mono. Des physiciens perdent leur salle de DS, la mobilisation gagne la salle 1, place de l'école. Dès lors, c'est parti. Rapidement, le programme des journées s'est constitué, intervenants divers, projections, ateliers, AG.
Et du coup, ça fait 2 jours qu'on est sur Mono et qu'on a une salle et qu'on a des intervenants qui viennent parce qu'il y avait des trucs qui étaient prévus à Lyon 2. Comme Lyon 2 est toujours pas débloqué, bah c'est ici. Et c'est stylé, et il y a eu des gens qui sont venus parler de B68, il y a eu une projection d'un film par des antifas grecs. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Il y a eu des Gélipi, les gens des prisons, il y a eu un collectif de géographes, et c'était stylé. Et là, il y a eu une soirée du tonnerre, avec genre des gens qui font de la musique et tout, et c'était trop bien. Mais c'est dingue, il y a l'INSA, il y a Sciences Po, il y a les Beaux-Arts, bon, ils étaient 3, mais ils ont dit « on va vous faire des affiches ». Il y a Sciences Po, bon, je sais pas, moi ils étaient pleins et puis après ils étaient 2 et après ils pensaient qu'ils allaient être de nouveau pleins et en fait ils étaient encore 2. Et cette nuit on était 6 à dormir, du coup ce matin on était genre 7. Et du coup c'était vachement facile d'organiser des trucs. Et entre les joueurs de Lyon 2, les assassins de l'ENS et les gens qui ont des potes, ça organisait des trucs quoi. Puis après, comme c'est l'occupation, c'est le zbeul et vient qui vient et c'est stylé. Genre les gens de l'INSA ce soir ils étaient pleins, c'était trop bien mais on les attendait pas du tout et c'était cool. Il y a des gens, il y a 3 personnes qui sont venues parler d'un bouquin dont 2 qui ont fait 68 à Lyon qui juste nous racontaient leurs anecdotes de 68 et c'était ouf, c'était oufissime. Genre les vieux qui disaient non mais à 68 on était aussi schlag que vous, ça marchait pas, il y avait plein d'étudiants qui s'en foutaient et en vrai faut pas croire, faut pas le voir sur un piédestal, vous pouvez être tout à fait aussi déter que nous et ça va le faire.
Presque personne n'était d'accord. Par exemple, les barricades, il a vraiment fallu que nous, on le veuille. Parce que toutes les puissances importantes, responsables, etc., ne voulaient pas. Le SNES-SUP s'est désolidarisé illico dès qu'ils ont su qu'un commissaire était mort. Ils ont tout de suite publié un texte avec 50 signatures de profs pour dire non, on n'est pas d'accord.
Alors qu'au départ, ils étaient avec nous.
Les étudiants bien sages étaient contre. Il a fallu qu'on force. C'est-à-dire que c'est une toute petite minorité qui a décidé. La convergence, c'est une impression a posteriori.
La salle occupée a en effet rapidement eu vocation à devenir un lieu de vie à part entière, comme ça a été le cas à Lyon 2, mais aussi dans les autres facs françaises occupées. On pense au Mirail, à Toulouse, à Nanterre, etc. Sur un tableau, à l'extérieur de la salle, sont inscrits les différents événements de la journée, les appels à rassemblement, les manifs, les AG. Mais par lieu de vie, on entend aussi la vie quotidienne, la tambouille, qu'il faut cuisiner, les jeux, les musiques, les danses. Dès samedi, c'est un tournoi de ping-pong qui s'est organisé et auquel le voisinage a été convié.
C'est parti.
En même temps, ce qui se passe, c'est assez ouf parce que il y a un peu de la diversité culturelle. En fait, il y a même, je crois, j'avais pas vu autant de gens différents ensemble depuis un petit moment. Ça fait vraiment un repas de quartier qui se passe bien. Ouais.
Ouais.
Ouais, ouais. Généralement.
Tu veux te présenter au micro ? Toi qui fais partie de la lutte maintenant ?
Ouais.
Qu'est-ce que tu penses de l'engagement révolutionnaire ?
Bah, que c'est bien.
Ah, ben voilà, c'est bon. Gagné.
T'as gagné.
C'est la bonne réponse. Voilà.
Ouais, t'as surtout fait du ping-pong, hein, je crois.
Les pizzas, elles étaient super bonnes.
L'occupation a permis finalement de créer un lieu pour continuer la mobilisation étudiante, se réunir, réfléchir et discuter des actions à mener, mais aussi de créer une dynamique d'ouverture de l'ENS sur le quartier où elle est implantée. Ça se passe, on le rappelle, salle 1, place de l'école sur le site Mono, et c'est parti pour continuer avec chaque jour des événements programmés. C'est ouvert à tous, vous n'avez plus qu'à passer.
Merci beaucoup Maë et François-René pour ce journal et pour le sujet long sur cette occupation. Donc, à ça vaut tous les jingles du monde, mais on va en lancer un quand même. Et on va immédiatement passer à une petite interview avec quelques-unes des occupants et occupantes. Si jamais on pouvait avoir un garçon et une fille, ça serait parfait pendant la durée du jingle.
Vous écoutez le journal radiophonique amplifié de Transistor.
Alors, on en a un. Bonsoir.
Bonsoir.
Il nous manque toujours une deuxième personne, mais François-René ne veut pas laisser sa place.
Non, mais ça...
Bien, le mouvement s'est ancré maintenant à l'ENS, où il se veut à la fois une convergence peut-être des différents établissements. On a entendu parler de Terrier communiquant rapidement, c'est quelque chose qui a été pas mal théorisé ces derniers jours, quelque chose d'intéressant là-dedans. Une convergence aussi éventuellement des différentes luttes qui essayent d'être relayées ici. Comment ça se met en place? Comment ça s'articule?
Alors exactement, comme vous le dites, cette stratégie des terriers communicants, c'est l'idée que face à la répression qui ferme les facs et donc les lieux d'occupation les uns après les autres, solidarité. Nous étudiants sommes tous solidaires parce que nous partageons les mêmes objectifs, le même combat. Et donc si une salle d'occupation est fermée dans une fac, l'occupation peut très bien se déplacer dans une autre fac et ainsi de suite si nous sommes forcés à nous déplacer plusieurs fois.
Et alors du coup, donc il y a vraiment un relais, d'ailleurs on le voit dans les personnes qui sont ici dans la salle ce soir, il y a des gens de Lyon 2, il y a des gens de l'ENS, il y a des gens d'un petit peu partout, on a entendu parler des quelques-uns de l'INSA dans le reportage, et d'ailleurs il y a un soir où ils ont été bien plus nombreux que ça. Au-delà de la représentation des différents établissements, l'enjeu est aussi d'essayer de représenter et de donner la parole différentes luttes.
Oui, l'enjeu c'est d'avoir déjà un espace d'organisation où l'on puisse organiser des AG, où l'on puisse organiser des départs en manifestation, où l'on puisse organiser des points d'information, et qui soit aussi un lieu symbolique qui nous permette de nous réunir, de nous connaître.
Se réunir, se connaître, et justement s'organiser peut-être du coup dans le cadre de cette lutte. Ah, on vient d'être rejoint par une occupante. L'organisation concrète dans la lutte, elle se passe comment? Elle s'est passée par l'organisation d'une manif hier. Comment concrètement ça se met en place aussi? Que ça soit sur le plan des luttes étudiantes ou toujours dans cette dynamique de faire converger les établissements, les différentes luttes.
Alors, les actions sont toutes décidées en assemblée générale qui se tiennent régulièrement dans la salle occupée, qui sont soit
c'est
des
faux.
Assemblées interfac, donc avec les gens des autres facs, soit parfois des assemblées internes à l'ENS. Et nous avons décidé donc de faire des actions, en effet, comme des départs en manif, comme tu viens de le signaler. Mais nous avons d'autres actions en cours, comme par exemple l'établissement d'une caisse de grève, qui a été décidée en AG récemment, qui sera bientôt sur pied. On tiendra des permanences à la fois sur le site Mono et sur le site Descartes. Nous vous encourageons à y participer. Et par ailleurs, sont décidés aussi dans ces AG de faire des comités plus restreints pour d'autres actions, comme des manifestations publiques. Nous décidons d'un programme dans la salle occupée, que vous pouvez consulter sur ENS en lutte, avec des projections. Ce soir, nous projetons le film Pride à 21h, donc si vous voulez vous lever et venir maintenant, vous êtes les bienvenus. Des concerts. Demain soir, nous avons un concert de musique classique, de guitare, à 20h. Vous êtes également conviés. Mais également d'autres conférences.
Une animation politique et culturelle aussi en même temps. Je crois que tu viens pas de l'ENS, toi. Bonsoir.
Non. De Lyon 2.
Et du coup, alors, comment, du point de vue de quelqu'un qui vient de Lyon 2, là encore, cette convergence s'opère dans ce lieu qui se trouve être un petit peu délocalisé pour une lutte qui s'était quand même lancée à Lyon 2 pendant plusieurs semaines.
On trouve que c'est bien dommage qu'on ne peut plus exercer toutes les activités et la programmation à Lyon 2, qui était notre foyer de lutte. Mais ça fait quand même plaisir de voir qu'on est tous et toutes solidaires, dans le sens où on sait que s'il se passe quelque chose d'assez malheureux, comme une évacuation de la fac, on sait qu'on a du relais, on a du support, on a du soutien ailleurs. Et je trouve que c'est encore plus important, étant donné que c'est une école assez élitiste, très élitiste.
Non.
Mais choisit quand même de s'engager dans le mouvement. Et bien sûr, notamment par rapport à l'organisation, tout le monde peut donner son avis, peut suggérer des choses, peut participer dans la programmation et d'autres activités aussi.
Alors maintenant, sur ce que tu évoquais, peut-être avec la caisse de grève et des actions très concrètes au sein de l'école, et puis aussi sur la culture militante que poursuit un petit peu cette occupation, je vais retransmettre une petite minute d'un enregistrement qu'on avait réalisé il y a pile 2 ans lors de l'occupation de la F01, dont quelques-uns se souviennent peut-être.
Allez, c'est pas toujours dans l'idée d'avoir un message ou des revendications claires, c'est juste simplement le fait de faire des choses ensemble et de se rencontrer et de briser la division qui règne entre les individus, c'est déjà en soi un acte politique. Et du coup, c'est ça qu'on a fait avant tout. On a eu des discussions politiques avec les gens qu'on a rencontrés. On a parlé de la loi travail, on a parlé de leurs conditions de travail. Ça a été assez éclairant d'ailleurs quant aux conditions de travail de l'ENS, des travailleurs de l'ENS. Mais avant tout, on a rencontré des gens et ça, c'est plus important en fait.
Et pour terminer là-dessus aussi, l'éducation politique qui se fait à travers ces discussions, à travers ces rencontres, ce sera peut-être même beaucoup plus pérenne que n'importe quoi d'autre qu'on pourrait faire en fait. Ça, c'est quelque chose, je vais pas pousser le lyrisme jusqu'à dire que ça va nous suivre toute notre vie, mais enfin, il y a quelque chose de ça aussi quand même, ça donnera d'autres choses et sera peut-être, même encore plus pérenne que simplement sortir, faire une manif un jour, quoi. Donc, c'est faire des choses.
Voilà, finalement, c'est le discours assez amusant quelque part aujourd'hui qui était tenu à l'époque était celui d'une pérennisation qui n'était pas tellement par les actions qui seraient accomplies, mais que finalement, la politique dans l'école, elle se pérenniserait par le lien que créent ces occupations. Est-ce que 2 ans après cet épisode quand même assez fondateur d'une première occupation depuis que l'ENS est à Lyon, on a l'impression que la place de la politique est vraiment créée à l'école? Et là, je te parle peut-être plus à toi qui forcément a peut-être plus assisté à ça.
Alors, pour ma part, je n'étais pas là il y a 2 ans à l'occupation de la F01, donc je peux laisser la parole... Je peux laisser la parole à un des camarades qui n'était pas en Amérique latine.
Et qui se sent obligé de siffler abondamment. Oui, on a un blond avec les cheveux longs, là.
Allez, Jean.
Elle a l'air connue dans la chaîne.
Bonsoir. Je m'appelle Jean-Jacques Goldman.
Non,
j'ai des cheveux frisés.
Du coup, cher Jean-Jacques... sur la place que la politique occupe à l'école et peut-être aussi dans la suite de ses occupations, ou peut-être que la question est beaucoup trop compliquée.
Non, mais quand même, j'ai l'impression que l'occupation d'il y a 2 ans, elle a pas mal changé de choses au niveau interne à l'ENS. D'une part, le BDE, il s'est posé sur des questions plus précises et ça a pas mal changé du coup. Deuxièmement, le rôle des associations qui ont accepté d'avoir des positions politiques ou militantes. Ce qui nous a permis du coup de faire une rentrée interassociative au début de l'année qui a apporté une bonne ambiance et qui a mis en lien beaucoup de personnes différentes. Et j'ai l'impression qu'en 2 ans, mine de rien, ça a changé.
Bon, et pendant que tu es en train de te faire abreuver de bière et chatouiller, je bondis sur la question suivante, et qui est peut-être la plus importante finalement. Là aussi, c'est quelque chose que dit très bien l'occupante d'il y a 2 ans qu'on écoutait. Cette occupation, c'est un lieu de rencontre, c'est peut-être ça l'essentiel dans une occupation, et c'est ça qui change dans ce mode d'action par rapport à tous les autres modes d'action militants. C'est un lieu de rencontre avec des travailleuses et des travailleurs, par exemple par la caisse de grève. Aussi un lieu de rencontre avec finalement le lieu dans lequel on se trouve et les gens qui nous environnent. En quoi cette occupation-là a permis de nouveau ces rencontres ?
Je trouve que c'est l'une des choses les plus importantes dans une occupation, c'est le fait de pouvoir rencontrer des gens d'un peu partout et surtout, notamment ici, des gens qui sont de l'ENS, des étudiants et des étudiantes que... Peut-être qu'il y en a d'entre nous qui n'avaient jamais vraiment discuté avec une personne de l'ENS et du coup qui avaient cette grosse séparation entre des étudiants de la fac et des étudiants d'une école. Et ça a permis le fait qu'il y ait un sujet qu'on ait en commun qui a permis une discussion plus profonde. Et on peut parler principalement de l'occupation, de la loi ORE, etc., mais surtout aussi d'autres choses et des choses qu'on a en commun avec des étudiants d'une école et les choses que nos différents parcours et on s'inspire les uns les autres, je crois.
Parce qu'il y a eu, ça, la rencontre entre étudiants, il y a eu la rencontre avec, par exemple, les femmes de ménage qu'on a entendues, il y a aussi la rencontre avec la population du quartier, peut-être.
Oui, c'est vrai, on a des voisins qui, juste au-dessus, nous ont donné des matelas, de la nourriture et des bières, et c'était très appréciable. Mais surtout, le dimanche, le premier pique-nique ping-pong qu'on a fait, il y a des couples qui habitent les immeubles en face de l'occupation qui sont venus jouer au ping-pong et qui ont ramené plein de choses très agréables à partager ensemble. Ils étaient très, très contents qu'il se passe quelque chose dans leur quartier qui leur semble très mort. Et du coup, ouvrir l'université sur la ville, sur le quartier, c'est hyper important et ça permet de ne pas rester entre soi et d'ouvrir à de nouvelles luttes.
Eh bien, merci beaucoup sur cette perspective optimiste. On espère que cette occupation continuera à créer du lien pendant encore un certain temps.
Ouais, vive la ZAD !
Jusqu'à 21h,
le journal radiophonique amplifié de Transistor.
Et à 20h28 sur Transistor, on te retrouve François-René pour un petit décortiquage.
Bonsoir François-René.
Ouais, bonsoir.
Bonsoir Cyril.
Décortiquage.
François, si tu nous entends, on est là, on est là, François, si tu nous entends. On est là jusqu'à ce soir.
Je vous entends.
Encore un beau jingle pour ton décortiquage. Ce soir, tu nous parles de méritocratie, je crois.
Oui, oui, oui. Ouais, c'est pas beau. Bon, je m'aperçois que c'est un peu sérieux ce que je vais dire. C'est pas grave. Donc,
Oula.
Donc, l'aristocratie, c'est étymologiquement le pouvoir des meilleurs. L'oligarchie, c'est le pouvoir de quelques-uns. La monarchie, le pouvoir d'un seul. La plutocratie, le pouvoir de l'argent. Et... Tu vas me faire la relance.
La méritocratie serait le pouvoir des méritants.
Mais tout à fait. Terme récent, comme le montre le fait qu'il a une étymologie qui emprunte à la fois au latin mereo et au grec kratos. Son inventeur est l'anglais Michael Young, un sociologue et un homme politique socialiste qui était membre du Labour dans l'après-deuxième guerre mondiale. Il publie en 58 L'ascension de la méritocratie, qui est un livre sur... qui est un livre de sociologie fiction qui sert à dénoncer, je cite, les effets pervers du système d'éducation anglais.
Alors là, la petite pause tamagocourt.
C'est quoi ? Et il développe l'idée que, loin d'être un idéal, ce modèle poussé à ses limites engendrerait des situations invivables pour les, je cite, non méritants qui seraient responsables de leur propre sort. Donc on voit que pour son inventeur déjà, le terme de méritocratie était sujet à caution, accusé de légitimer les inégalités et de culpabiliser ceux qui ne réussissent pas scolairement ou professionnellement à la mesure de leurs espérances.
Cela dit, même si le terme a été forgé en 58, on peut se dire que l'idéologie méritocratique est plus ancienne.
Et oui, elle a des racines plus anciennes. Alors je vous demande, est-ce que vous avez envie d'entendre les origines anciennes ?
Allez !
Allez ! D'abord, elle a des conditions historiques d'apparition, comme je vous l'ai dit. Sous l'Ancien Régime, dans une société d'ordre, il n'était pas question de méritocratie parce que la naissance avait un poids beaucoup plus grand que le mérite, au point que l'inégalité pouvait presque apparaître comme un fait de nature. En gros, celui ou celle qui naissait de parents nobles était noble, celui ou celle qui naissait roturier ou roturière le restait dans l'immense majorité des cas. La question du mérite ne se pose alors vraiment à l'échelle d'une société que dans les sociétés où la mobilité sociale peut atteindre une certaine amplitude et où l'égalité, au moins juridique, est suffisamment avancée.
Et voilà, et Sirius fait encore des blagues.
Non, il écoute très attentivement.
Bref, de quand date l'émergence de ce modèle en France ?
Alors, je vais vous faire vite parce que voilà. Alors, il y a deux grands moments, même si on peut... c'est toujours des dates un peu hasardeuses. En gros, 89, la Révolution française. Et là, je pense que Sirius sent son cœur battre, la Révolution. L'affirmation dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen que tous les hommes sont nés égaux. Et ensuite, les grandes lois Ferry en 81, donc un saut d'un siècle, avec une école primaire qui devient laïque, gratuite, obligatoire. Car l'école doit être l'instrument de l'égalité des chances. Elle doit être le levier sur lequel le régime peut s'appuyer pour changer la société et la rendre plus juste. D'où la nature politique de l'école républicaine, certes pour le contenu patriotique de ce qu'on apprend, la France, cette grande nation, blabla, mais surtout d'abord pour le fait que tous y ont accès. C'est là le contenu concret à l'époque de la méritocratie. Et la Troisième République est fière de son école. Pourtant, selon nos standards, c'est assez peu égalitaire puisqu'un pour cent d'une classe d'âge de garçons arrive au bac.
Et depuis, le moins qu'on puisse dire, c'est que le mythe de la méritocratie s'est un petit peu écorné.
Oui, l'un des plus célèbres écornages, c'est le livre de Bourdieu et Passeron, Les héritiers, qui date de 64 et qui expliquait, statistiques à l'appui, qu'un fils ou une fille de prof avait plus de chances d'accéder à l'enseignement supérieur qu'un fils ou une fille d'ouvrier. Rien d'absolument révolutionnaire, en réalité, comme Bourdieu le reconnaissait, mais une démonstration rigoureuse. Faisant cela, il passa néanmoins, et passe toujours chez certains, pour un mauvais républicain, qui pourtant adhérait pleinement au principe de l'égalité des chances.
Vas-y. Alors que conclure sur la méritocratie, ainsi renvoyée au statut de mythe, François René.
Alors deux choses. D'abord, en tant que projet républicain de renouvellement des élites, elle a une réalité au début de la République, avec la fin de la domination de la noblesse dans la société et une ascension de professions qui ont une visibilité qu'ils n'avaient pas jusque-là, journalistes, hommes de lettres, avocats. Et puis d'autre part, la méritocratie, c'est aussi une notion qui n'est pas évidente à manier. Par contre, l'idéal d'égalité des chances, lui, reste bien vivant et pertinent à condition qu'on décrive la réalité en plus ou moins d'égalité avec des degrés sans forcément établir de frontières strictes entre égalité et inégalité des chances.
Et merci beaucoup à 20h33 sur Transistor pour ce décortiquage. Et sous les acclamations de la foule, on accueille Marie qui revient de très très loin et de nombreux amplifiés que tu as séchés. C'est mal.
C'est très mal.
Mais on est ravis de te revoir et c'est parti pour ta revue de presse.
Voici la revue de presse. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour à tous.
L'hyper revue de presse.
La revue de presse dans les journaux.
La revue de presse.
La revue de presse qui fait parler et qui vous fait réagir, c'est avec Natacha Polony.
Revue de presse française. Et on commence cette revue de presse avec...
Aujourd'hui Marie, tous les quotidiens titrent pareil.
Alors oui, avec perte et fracas. Bon, on m'écoute, oui ou merde ? Avec perte et fracas, donc, c'est la sortie trumpesque d'hier qui a bien évidemment fait la une. Donald Trump, rappelons-le, a déclaré qu'il se retirait de l'accord sur le nucléaire iranien, ce dont on parlait un peu plus tôt dans le journal. Iran, Trump sort de l'accord, affiche ce matin la croix de manière sobrement descriptive. Au Figaro, on est plus alarmiste avec Iran, crise ouverte entre Trump et l'Europe. Au Monde, on insiste aussi sur une rupture très lourde de péril. Et l'analyste Gilles Paris se demande s'il ne faut pas voir là une tentation isolationniste de la part de Donald Trump. Enfin, chez Libération, la une nous projette déjà dans la suite avec Iran avancé sans lui sur la couverture de Libé. Trump de dos et en face de lui, les trois drôles de dames, Theresa May, Angela Merkel et Emmanuel Macron. Drôle de représentation de l'Union européenne, me direz-vous, et vous aurez raison.
Puisqu'on parle de l'Europe, la presse extrapole pas mal sur une remise de prix.
Oui, Rémi, puisque notre bien-aimé président reçoit aujourd'hui le prix Charlemagne, qui récompense à Aix-la-Chapelle, c'est pas récent tout ça, des personnalités engagées dans la construction européenne. Macron est donc distingué pour, je cite, « l'élan donné à l'Europe à la suite de la campagne électorale il y a un an, à bon », et pour, je cite encore, « le lancement des consultations citoyennes », à bon, et pour ses initiatives écologiques. Bref, au Figaro, on préfère souligner qu'à défaut de résultats, voici déjà pour Macron une récompense. Fin de citation. Et des résultats, il va en falloir si Jupiter veut endiguer l'avancée populiste aux élections européennes comme il le voudrait dans un an. Eh bien, pour ma part, je m'assois, je sors les pop-corns et je regarde. Allez, et pour finir sur Macron, du haut de ses 72 ans, le chroniqueur Alain Raymond jette un pavé dans la mare avec son billet du jour dans les pages de La Croix. Macron est-il de gauche ou de droite ? Eh bien, je pense qu'on a résolu cette question depuis un bon moment déjà. Et en plus, le billet n'est même pas drôle. La Croix, toujours un petit temps de retard sur les autres.
Mais nous filons, on traverse le Rhin avec un reportage.
Reportage que vous retrouverez dans les colonnes de Libération en page 6 et 7 et ça s'appelle « En Allemagne, une ZAD face aux lignites ennemies ». Alors cette zone à défendre, elle est implantée dans la forêt rhénane. Elle s'est érigée contre la mine de charbon voisine, le charbon étant devenu une matière première très convoitée depuis que l'État allemand a décidé de sortir du nucléaire, comme nous l'explique l'envoyé spécial. Alors ça fait déjà 6 ans que dure cette occupation d'écologistes et d'habitants des villages alentours, que l'on voudrait déplacer pour agrandir la dite mine de charbon qui encercle toute la ZAD et qu'on surnomme le Mordor. Là-bas, précise la reporter, on est antiraciste, anticapitaliste, pro-réfugié, féministe, vegan, LGBTI. Tout ce qu'on aime. Bien sûr, un mois après l'attaque du gouvernement contre Notre-Dame-des-Landes, la lecture de ce papier est quand même un petit peu douce amère, mais c'est un reportage intéressant sur l'une des plus grandes ZAD d'Europe, car si la presse conservatrice allemande cherche autant à décrédibiliser le mouvement auprès de l'opinion, c'est bien parce que cette ZAD est la mauvaise conscience de l'Allemagne, je cite, le symbole des cruels paradoxes d'une politique énergétique qui se targue de mettre fin au nucléaire d'ici à 2022, sans régler la question de ce charbon si polluant, mais si peu cher.
Et pour clôturer ta revue de presse, tu vas nous parler de Parcoursup et de la nouvelle procédure d'admission dans le supérieur.
Alors dans les colonnes du Monde, aujourd'hui, le sociologue François Vatin nous propose son analyse et il titre ça « Parcoursup, s'il est réaménagé, est un progrès ». Une analyse qui m'a semblé assez confuse quand je l'ai lue. Vatin commence par rappeler que les lycéens ne se sont pas mobilisés contre cette réforme. Bon, que les contestations étudiantes qui réussissent sont quand même celles qui sont soutenues par une partie des enseignants. Bon, qu'il n'y aura pas plus de sélection en 2018 qu'en 2017, puisque même si le système d'orientation des lycéens a changé, le nombre de places disponibles à la fac reste identique. Que celles et ceux qui protestent contre Parcoursup, finalement, ce ne sont pas les lycéens, mais ceux qui sont déjà à la fac, ce ne sont pas les professeurs des filières sélectives, mais ceux des filières où, justement, les bacheliers ne veulent plus aller et n'iront que s'ils ne sont pris nulle part ailleurs. Et c'est là que je trouve cette analyse très mal tournée. Il me semble qu'elle manque un certain nombre de points cruciaux. Vatin met l'accent sur une idée, je cite, « il faut faire revenir vers les universités la population qui les ont fui pour des formations sélectives de plus en plus souvent privées ». Il faut réaménager Parcoursup, même si notre sociologue se garde bien de dire comment. Moi, je trouve très très étonnant de penser comme ça sous silence la question des inégalités sociales, parce qu'à côté de ce public favorisé qui part faire une école de commerce, il y a aussi d'autres classes sociales, celles qui sont discriminées à l'entrée dans le supérieur sur la base de leurs notes au lycée, de leur CV et de leurs lettres de motivation. Tout ce public qui subit des inégalités sociales qu'on va encore aggraver. Alors, est-ce qu'on en parle de ce malaise-là ? Ce sera tout pour ma revue de presse aujourd'hui. Merci de l'avoir écouté.
Et merci à toi, Marie.
De l'amplification
sur Transistor.
Et c'est parti pour un petit édito économique. Bonsoir Robin.
Bonsoir Rémi. Et une fois n'est pas coutume, je commence avec une date.
Oula.
1938, c'est la date de création de la SNCF.
Money, 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 always sunny in the
Alors j'avais envie de vous parler d'une lutte un peu connexe à celle qui est défendue ici, celle qui concerne la réforme de la SNCF. Alors je ne vais pas vous parler du statut des cheminots, pour la simple raison que je ne pense pas être le mieux placé pour le faire. Non, je vais vous parler d'un autre versant du rapport Spinetta, celui qui guide la réforme actuelle, et qui concerne l'ouverture à la concurrence de la SNCF prévue pour 2020.
Revenir en 1938.
Oui, parce que le principe de concurrence sur les chemins de fer, celui qu'on veut remettre en place, justement, a été aboli avec la création de la SNCF en 1938. La création de la SNCF comme société à capitaux publics, c'est-à-dire que c'est une société comme toutes les autres, sauf que 51% des actions appartiennent à l'État. Avant 1938, le transport ferroviaire était partagé en France par plusieurs compagnies privées et quelques morceaux publics. Ces différentes compagnies construisaient des rails et faisaient rouler des trains sans trop se coordonner. Dès les années 1880, le constat a été fait de la très grande inefficacité de ce mode de gestion. Les compagnies perdaient beaucoup d'argent, le maillage était chaotique, on avait des lignes en doublon, d'autres lignes nécessaires n'étaient pas construites, à tel point que le déficit des différentes compagnies ferroviaires atteignait en 1938 plus de 37 milliards de francs, un chiffre bien plus conséquent que le déficit actuel de la SNCF, si on le rapporte au budget de l'État.
Et c'est donc face à une telle situation que le Front Populaire a décidé de faire de la SNCF une société publique.
Oui, mais attention, ce n'est pas le Front Populaire de Léon Blum, celui des congés payés qui l'a fait, mais le Front Populaire de Camille Chautetan, avec un gouvernement très nettement recentré à droite et dont l'objectif affiché était le redressement de l'économie et l'équilibre du budget. Ça ne vous rappelle rien comme genre de slogan ? Il faut donc avoir en tête que la création de la SNCF a probablement moins eu lieu pour promouvoir un service public que pour répondre à un problème d'efficacité. Le rail, effectivement, est ce qu'on appelle en économie un monopole naturel, c'est-à-dire qu'il n'est efficace, il n'est pas efficace si plusieurs entreprises coexistent sur le marché. La raison est assez simple. En matière ferroviaire, il existe un différentiel immense entre le coût fixe, c'est-à-dire les coûts d'infrastructure que sont la construction des voies et des gares, qui sont très élevés, et le coût variable, celui de la mise en circulation des trains. Pour qu'une entreprise puisse rembourser toutes les dépenses qu'elle fait en coût fixe pour construire les voies, elle doit s'accaparer toutes les ventes du marché pour le rembourser. Imaginez par exemple qu'il y ait deux SNCF avec toutes les voies en double, et que si on imagine que les usagers se répartissent également entre les deux, cela voudrait dire que chacune des deux SNCF vend deux fois moins de billets, fait circuler deux fois moins de trains, et du coup fait deux fois moins de bénéfices, ce qui ne suffirait pas à rembourser les frais qu'elle a avancés pour construire les voies. Ce n'est pas viable.
Enfin Robin, il me semble que l'ouverture à la concurrence concerne la circulation des trains et donc pas le réseau ferré lui-même.
Effectivement, l'idée du rapport Spinetta sera plutôt que la SNCF loue, entre guillemets, ses rails à d'autres compagnies. Dans ce cas, la question de l'efficacité se pose dans des termes différents. Et alors la vraie question, c'est l'efficacité pour qui ? Je suis assez étonné d'entendre des associations d'usagers se positionner fortement en faveur de l'ouverture à la concurrence. En effet, c'est pas sûr du tout que les gains d'efficacité prétendus se fassent en faveur de l'usager. J'ai envie de vous mentionner par exemple une étude de la Toulouse School of Economics, un bastion du prix Nobel Jean Tirole, qui n'est franchement pas l'économiste le plus à gauche que je connaisse. Et cette étude explique pourquoi, sur les lignes à grande vitesse en tout cas, l'ouverture à la concurrence ne résulterait probablement pas en une baisse des prix. L'idée est que le TGV fait déjà des marges très faibles et sature l'offre. Il n'y a pas d'intérêt pour de futures entreprises à venir occuper cet espace de marché puisque elles ne pourront pas faire baisser les prix et ne pourront pas proposer de nouveaux trains. Donc pour le moment, les TGV favorisent plutôt le voyageur et une ouverture à la concurrence pourra même plutôt détourner la SNCF de cet objectif historique et à la mettre à faire augmenter les prix, d'après cet article de la Toulouse School of Economics. Et donc si l'efficacité n'est pas pour les usagers, pour qui est-il alors ? Eh bien c'est pour ceux qui supportent les coûts, c'est-à-dire l'État. La question n'est donc plus trop celle de l'efficacité, mais de savoir si l'État accepte ou non de subventionner la SNCF, c'est-à-dire que c'est un choix politique, à savoir est-ce que la SNCF doit être ou non un service public.
Et je pense qu'on laissera les gens dans la salle répondre leur seule présence ici. Peut-être déjà une réponse. Merci beaucoup Robin pour cet édito économique. Et avant de passer à la culture, on termine avec une dernière petite actualité présidentielle.
Ah.
On a beaucoup vu ces derniers jours l'un des désormais célèbres tags de la rue d'Ulm qui rappelle à Emmanuel Macron que le Black Bloc a réussi à entrer à l'ENS là où lui a par deux fois échoué. Mais si Macron n'est pas entré à l'ENS, il a ses entrées à la NRF où il a ce mois-ci donné une interview qui lui permet d'affirmer humblement deux points, je cite « Je ne suis que l'émanation du goût du peuple français pour le romanesque ». Outre que la remarque pouvait aussi bien qualifier le général Massu ou Émile Louis, on ne pourra que s'étonner de la profondeur de cette ânerie qui expliquerait quand même bien des choses. Car, de toute évidence, Zola a rendu romanesque une certaine misère de classe plus malheureuse les unes que les autres, la vision crépusculaire de travailleurs fatigués encoronnés par centaines dans les dortoirs périphériques où dort le bétail du capital, et la lutte à mort des fourmis insurgées contre la semelle lustrée, de l'État barbare en marche vers un passé drapé de honte et de mépris, et bien sûr les pauvres et leurs ridicules prétentions à avoir des exigences sont romanesques, mais si penser à la trogne surhumaine et terrifiante de Jean Gabin dans La Bête humaine. La précarité étudiante prend un autre aspect quand on a lu Christiane F, le sort des colonies prend des couleurs fantastiques après la lecture de La Folie Almayer ou de Tintin au Congo, et on prendrait presque la prison pour la matrice de l'aventure à se perdre dans le conte de Monte Cristo. Et je vous parle pas de la vision rocambolesque que Charles Maurras nous donne de la question juive. Bref, le romanesque, oui, c'est tellement plus facile, comme si les gens ici autour de nous et partout ailleurs avaient vraiment besoin qu'on leur raconte de belles histoires, alors qu'on demandait juste à tourner la page.
Journal radiophonique amplifié de Transistor, en direct avec vous jusqu'à 21h. Attention à vos oreilles.
Bonsoir Sarah, bonsoir Léa.
Bonsoir Rémi.
C'est parti pour le journal de la culture.
Ce soir, on retrouve Colline, qu'on a invitée ici à l'Occupation. Colline,
bonsoir.
On t'a invitée pour parler du rapport entre cinéma et révolte, parce que l'année dernière, tu faisais ton mémoire sur les corps en situation de révolte dans les cinémas des années 60-70, les cinémas américains. Alors d'abord, une première question, pourquoi est-ce que tu as choisi de travailler là-dessus ?
Alors disons que ce projet de mémoire est né de diverses réflexions. C'est le fruit à la fois d'un projet de philosophie politique sur la révolution et en même temps je voulais aussi travailler sur les corps au cinéma. Et j'ai voulu travailler plus spécifiquement sur les corps au cinéma parce que c'était pendant les années 60-70 aux États-Unis, parce que c'était pour moi une manière de parler des révoltes étudiantines aux États-Unis. Loin de l'analyse historique froide et désincarnée, et de parler justement des corps en situation de révolte. Du coup, c'était à la fois pour parler des représentations des corps, pour parler j'avais aussi une approche phénoménologique qui permettait de parler des interactions entre les spectateurs et les corps filmés dans ces films du Nouvel Hollywood. Et en dernier ressort, c'était aussi une façon de parler de la portée performative du cinéma dans ces années-là.
Mais alors c'est vrai que quand on imagine le cinéma du Nouvel Hollywood, on imagine la révolte contre la guerre du Vietnam par exemple, mais les révoltes estudiantines, elles nous viennent un peu moins en tête je pense. C'est quand même quelque chose qui transparaît dans ce film-là.
Disons que ce qui est intéressant dans cette période-là, c'est que c'est un cinéma qui aborde en creux un certain nombre de questions sociétales, à la fois la question de la guerre du Vietnam et une recrudescence de la violence qui est très perceptible à travers les images médiatiques. Et en même temps, ça évoque effectivement en creux la question des révoltes estudiantines, notamment à travers le film Zabriskie Point d'Antonioni, par exemple.
Comment il fait pour traiter ce sujet ?
Là, en l'occurrence, il s'agit de deux étudiants qui mènent une révolte au début du film. Le point de départ du film, c'est une révolte estudiantine. Et il y a l'un des étudiants qui est potentiellement accusé de meurtre et qui s'enfuit dans le désert. Et une autre étudiante qui, au contraire, elle, a vraiment une révolte plus libertaire et qui peut être du côté des étudiants. Et c'est ces deux personnes qui se rencontrent dans le désert et qui vont vivre un amour dans le désert, en marge de la société, mais qui dit quelque chose de l'impossibilité à s'inscrire justement dans l'institution universitaire.
Et en revanche J'ai l'impression que mon micro ne fonctionne pas. Voilà, c'est parfait. Merci. En revanche, la nouvelle vague, elle, plutôt, marque bien la question politique. Enfin, elle est vraiment abordée. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu de cette nouvelle vague que je suppose la plupart des gens ici connaissent un petit peu mieux, sans doute.
Oui, mais je voudrais ajouter sur la question du nouvel Hollywood, ce qui est intéressant à la différence... de la nouvelle vague, c'est que d'une certaine manière, c'est des films qui, au départ, s'inscrivaient dans des modes de production qui étaient différents des modes de production institués, qui voulaient se distinguer des studios américains et du classicisme hollywoodien. Et finalement, c'est des films qui ont été panthéonisés et qui, maintenant, font partie, d'une certaine manière, du soft power américain, comme les films de Scorsese, par exemple, que tout le monde connaît. Alors que, en ce qui concerne la nouvelle vague... Et le cinéma en 68 en France en général, il était caractérisé un peu par une tension entre la politique des auteurs qui a été amenée par la nouvelle vague et les collectifs de cinéastes engagés.
Tu as l'air un peu perdu.
Pardon. Petite pause.
C'est aussi quelque chose qu'on a vu avec en France, je veux dire, je pense à Digaverto. Des collectifs comme ça, Zanzibar ?
Oui, mais justement, les collectifs, il y avait d'un côté des cinéastes qui vraiment avaient une vocation militante et faisaient des films qui étaient... qui faisaient à la fois des films véritablement militants et des ciné-tracts. Donc eux, ils étaient vraiment dans la ligne directement politique. Et donc là, on peut penser aux collectifs de cinéastes militants comme le groupe... Digavertov, qui en réalité était presque exclusivement constitué de Jean-Luc Godard et de Jean-Pierre Gorin. On peut penser aussi au groupe Medvedkin ou au groupe Zanzibar, dont faisaient partie Philippe Garrel et Pierre Clémenti. Mais finalement, dans l'imaginaire collectif, ce qui a avant tout marqué les esprits, c'était plutôt les films de la Nouvelle Vague et notamment Jean-Luc Godard, qui étaient liés indirectement à ce qui se passait en mai 68 de par leur façon de traiter nouvellement des corps et des relations humaines et dans leur façon aussi de mettre en crise l'autorité en général.
Eh bien, justement, au sujet des corps, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur le traitement assez nouveau des corps
Ben, là, justement, je pense que en premier lieu, il faut d'abord, dans le cadre du nouvel Hollywood, c'était vraiment important, notamment au regard de la question de la violence. Dans le sens où on est passé du code Hays qui donnait certaines contraintes spécifiques dans le cadre de bienséance, et après on est passé à des films qui traitaient de la violence et de la sexualité et qui mettaient en lumière la gratuité de la violence et pour parler d'une jeunesse esselée et perdue. Et dans le cadre de la nouvelle vague, on aborde moins frontalement et disons qu'il y a moins une esthétique sensualiste, mais en revanche, il y a les questions de sexualité, de relations hommes-femmes et d'orientation sexuelle et de rapport à la parentalité sont, eux, très souvent abordés. Et aujourd'hui, ce qui a plutôt été radicalisé du côté de la nouvelle vague, c'est plutôt cette question du rapport du corps, je ne sais pas, à travers les films d'Abdel Latif Kechiche.
Et cette année, Colline, il me semble que tu travailles sur Pierre Clémenti, donc sur une révolte qui est politique, mais surtout existentielle. Alors pourquoi existentielle ? Est-ce que la révolution politique, c'est toujours un exutoire pour quelque chose d'antécédent, de plus personnel ?
L'an dernier, je me suis rendu compte que l'écueil de mes projets de recherche, c'était que je creusais pas assez la différence entre la question de la révolte politique et justement la question de la révolte individuelle ou existentielle. Et c'est la distinction qu'établit Albert Camus dans L'homme révolté entre la révolte métaphysique et la révolte politique. Et je trouvais que Pierre Clémenti, il incarnait vraiment cette articulation entre les deux, puisque au départ, déjà, lui personnellement, il a été trimballé de maisons de correction, en foyer, en plein d'institutions de ce genre quand il était petit. Et après, par la suite, il s'est petit à petit politisé de plus en plus et ça transparaît au regard de ses films. Donc il y a vraiment eu un passage de la révolte, d'une espèce de crise d'adolescence complètement justifiée à un engagement libertaire.
Véritablement.
Oui, non, vas-y. Ah oui, 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 tu nous avais dit tout à l'heure, parce que bon, on va pas le cacher aux auditeurs, on a un peu travaillé avec toi tout à l'heure, tu nous as dit que une des particularités des films de Clémenti, c'était son côté, leur côté psychédélique. Alors, moi, ça m'intéresse. Enfin, on aime bien l'opium, ce genre de truc.
Bah, une des figures... Une des figures majeures des premiers films de Clémenti, c'était la figure de la surimpression, notamment dans son film qui a été tourné en mai 68, qui s'appelle « La révolution n'est qu'un début, continuons le combat ». Et dans tout le film, il y a constamment de la surimpression entre des images sur son intimité, sa famille et sa femme.
Est-ce que tu peux préciser un peu quel est le procédé de la surimpression au cinéma ?
Bah, c'est tout simplement quand on met deux images l'une sur l'autre et qu'on perçoit à moitié les deux. Donc souvent, dans le cinéma, traditionnellement, on voit tout le temps un peu surimpression à travers la figure du fondu enchaîné quand on passe d'une image à une autre. Mais la surimpression consiste en le fait qu'on conserve les deux images côte à côte et ça permet soit de mettre en tension deux sujets, soit au contraire de travailler sur l'opacification de l'image et le dévoilement d'une autre image. Mais chez Pierre Clémenti, ça a plus spécifiquement à voir avec le psychédélisme et son goût pour les substances psychotropes.
Et tu penses que dans le cinéma contemporain, on trouve des formes comme ça d'expression, que ce soit des révoltes ou d'idées politiques comme ça, enfin, j'ai l'impression qu'on tombe vite dans l'écueil soit du documentaire aujourd'hui, soit du réalisme un peu, cette école très française du réalisme social, puis que la fiction finalement prend plus tellement en charge ce contenu.
Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, souvent, soit on reproche au cinéma de ne pas être assez politique parce qu'on tombe trop souvent dans des fresques réalistes sociales, comme c'est le cas soit du cinéma des frères Dardenne, mais eux, c'est un cinéma qui est assez juste et qui est vraiment spécifique à eux, mais sinon, moi je trouve qu'on tombe souvent dans des films un peu bateaux et un peu misérabilistes. Et d'un autre côté, il y a un cinéma documentaire qui est florissant et qui fait preuve de plein d'inventivités formelles, mais qui touche très peu de personnes, finalement. Et qui découle en partie de la nouvelle vague et des collectifs de cinéastes des années 60, mais qui touche peu de personnes.
D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Colline, pour ce moment très instructif et vraiment très, très chouette.
Merci, Colline. Merci à vous. Ah, et puis, apparemment, il y avait un message à faire passer. Mais bon, je vais laisser la parole à d'autres que moi.
Oui, sérieux, si t'avais envie de faire passer un message, apparemment.
Bonjour. Je suis berger. J'ai ramené mes mouflons. J'ai juste un appel du MILF, le Mouflon International Liberation Front. Big up. Libérez les mouflons !
Ouais ! Ouais !
Libérez les mouflons ! Libérez les mouflons, libérez les mouflons, libérez les mouflons.
Ça valait bien le sacrifice d'un micro, merci beaucoup Sirius pour cette intervention indispensable. Et à 20h58 sur Transistor, on va se quitter sur cette annonce. Ah non, il y avait encore une... Fin de journal de la culture, mon Dieu.
Oui, oui. Eh bien, maintenant que May est très en colère parce que l'on veut libérer les mouflons et pas les moutons de Soé, je vais quand même faire quelques annonces parce qu'on a beaucoup parlé de corps, là. Et demain, justement, il y a le laboratoire junior altérité, marginalité et catégorisation qui va faire une conférence en compagnie d'Ariana Sforzini, si je prononce bien. Donc doctorante en philosophie, je crois, et Marie Astier, qui travaille sur la représentation du handicap sur scène. Donc voilà, allez-y, ça a l'air très intéressant. C'est en BU, il me semble, de 14h à 17h. Donc c'est pas trop long, c'est juste 3 heures de votre vie à ne pas perdre. Et sinon, bah, ici, n'oubliez pas, il y a toujours plein d'événements culturels qui se passent. Et comme ça a été dit un peu plus tôt dans la soirée.
Et on va d'ailleurs pas tarder à enchaîner sur une projection. Et on va donc tout de suite rendre l'antenne à 20h59. Maintenant, on a rattrapé la montre. C'était le journal radiophonique amplifié de Transistor, une émission coordonnée par Rémi Cerda avec cette semaine François-René Julliard, Maë Burla, Marie Lécuyer, Robin Lenoir, Sarah Andria et Léa Jusso. On remercie bien sûr Colline, notre invitée du journal de la culture, et puis bien sûr les occupantes et les occupants qui nous ont rejoints à la suite du journal. On remercie Félix Barancy en régie qui a beaucoup souffert pendant cette petite heure de direct. Et on se retrouve d'ici 2 semaines pour le dernier amplifié de l'année, toujours sur www.transistor.fr.
Vive les mouflons !